Carrefour.
Quand vous me dites...
Ah, moi je l'ai toujours dit, dans la vie, il n'y a pas de mal à se faire plaisir.
Eh bien, ça me donne envie de vous dire qu'il y a 68% de remise immédiate sur le deuxième produit Durex acheté. Et c'est valable sur tout Durex. Du coup...
Oh, ben comme ça, tout le monde est content.
Et c'est jusqu'au 7 juillet, chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher. Détails sur carrefour.fr. Dispositif médical, pour plus d'informations, consultez la notice.
Vous écoutez
RMC.
Il est 6h31 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Trois grands blocs et aucune majorité absolue à l'Assemblée selon un sondage Elab qui donne le Rassemblement National en tête au premier tour des législatives, loin devant la majorité présidentielle. Le psychodrame continue aux Républicains. Éric Ciotti, exclu du parti, conteste la décision, écrit au putsch. Et puis l'Union Européenne s'attaque à la concurrence déloyale de la Chine sur les voitures électriques, ce qui est en les taxant davantage, ce qui va forcément faire grimper les prix pour les automobilistes.
Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée pour plus de clarté, mais on ne sera, semble-t-il, pas plus avancé le 7 juillet.
C'est ce que révèle le sondage Elab publié hier pour BFM TV et la Tribune dimanche. Comme aux européennes, c'est le Rassemblement National qui arrive en tête au premier tour avec 31% des intentions de vote, mais sans décrocher la majorité absolue. Le parti d'extrême droite pourrait obtenir entre 220 et 270 sièges des députés qui devront composer avec l'Union des Gauches qui arrive en deuxième position à 28% et le camp présidentiel bon troisième crédité de 18% des voix. Une répartition qui fait planer la menace d'une assemblée très instable, Mao Bécard-Granier.
Un sondage qui donne trois blocs avec le Rassemblement National en tête, mais sans majorité absolue. Julia s'inquiète d'une future assemblée dans l'incapacité à gouverner.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui va pouvoir se passer avec une telle cohabitation, on va dire. C'est vrai que c'est une crainte qu'on soit dans un gros marasme. Qui va payer ses pots cassés? Bah, ça sera nous, je pense, les citoyens.
Derrière le RN, le bloc de gauche avec entre 150 et 190 députés, celui de Renaissance avec maximum 130 sièges, il faudra des alliances pour légiférer, une nouvelle répartition que cette retraitée ne voit pas d'un si mauvais œil.
Et ça va se jouer dans des relations humaines beaucoup plus que trucs d'appareil. Ils parleront ensemble et ils trouveront des accords, selon les lois, selon les projets. Mais il faut accepter que tout le monde ne soit pas ou blanc ou noir, ou bleu ou rouge.
La Constitution est pensée pour faire face à ces situations, explique Jean-Philippe Derosier, professeur de droit public.
Depuis deux ans maintenant, le gouvernement n'a pas été censuré, il a pu gouverner. Le 49-3 qui permet de sécuriser l'adoption, notamment des lois les plus importantes.
Une chose est sûre, l'Assemblée ne pourra pas être dissoute dans l'année suivant son élection.
Ces trois blocs au cœur de la conférence de presse hier d'Emmanuel Macron qui a renvoyé dos à dos l'extrême droite et l'extrême gauche en dénonçant les alliances contre nature pour appeler à le rejoindre. Mais toujours selon notre sondage Elab, l'omniprésence du président dans cette campagne est un handicap pour son camp. C'est ce que pensent 72% des Français. Et on peut dire que ces appels du pied font flop pour le moment, notamment chez les Républicains. LR en pleine crise après l'alliance avec le Rassemblement National annoncée par Éric Ciotti, leur président qui a donc été exclu du parti. Hier, une décision qu'il conteste, mais il semble désormais bien isolé, Romain Cluzel.
Du côté des députés sortants, c'est simple. Une seule soutient Éric Ciotti. Sa voisine de circonscription à Nice est très proche, Christelle Dintorni. L'autre soutien le plus identifié est Guilhem Carayon, le chef des Jeunes Républicains, qui devrait candidater dans le Tarn. Et puis, quelques maires ont affirmé être prêts à une alliance avec le RN, à Montauban ou encore Cholet. En dehors de ces personnalités, peu de monde se bouscule pour venir au soutien d'Éric Ciotti. Plusieurs cadres du parti racontent que le désormais ex-président des LR tente de piocher au sein des Jeunes Républicains, avec des profils souvent inexpérimentés. Tous ceux qui acceptent seront exclus du parti LR, prévient la nouvelle direction, et auront un candidat estampillé LR face à eux, Éric Ciotti inclus.
Et le psychodrame gagne désormais le parti Reconquête. Après l'appel de sa tête de liste aux européennes, Marion Maréchal à soutenir les candidats de l'alliance entre Ciotti et le RN. Éric Zemmour crie à la trahison et a donc annoncé hier sur BFM l'exclusion pure et simple de Marion Maréchal. À gauche, les négociations sont sur le point d'aboutir. C'est imminent. On y revient dans le journal de 7h. Il est 6h35 sur RMC. L'Europe s'attaque à la concurrence déloyale des voitures chinoises. À partir du 4 juillet, l'Union européenne va taxer davantage les véhicules électriques produits en Chine à hauteur de 38% contre 10% jusqu'ici. Une mesure pour protéger les constructeurs du vieux continent. Martin Bourdin.
Parce que les voitures électriques chinoises sont de plus en plus présentes sur les routes européennes. 8% des voitures électriques vendues en Europe sont de marque chinoise. D'après l'Institut Jato, 4 fois plus de parts de marché en seulement 2 ans. Or, ces constructeurs, BYD, SAIC, sont soutenus par Pékin à coup de subventions publiques, ce qui favorise illégalement les voitures chinoises sur le marché européen. D'après l'UE, ces droits de douane supplémentaires doivent donc permettre de limiter les ambitions chinoises en Europe, décrypte Flavien Neuvy, économiste spécialiste du marché automobile.
Le choix de l'Europe de passer au 100% électrique d'ici 2035 attise finalement les convoitises des constructeurs chinois qui ont besoin de trouver des relais de croissance parce qu'ils produisent beaucoup de voitures tout simplement. Ils vont arriver avec des voitures qui seront à la fois performantes parce qu'ils ont beaucoup progressé sur ces dernières années et en même temps qui posent la question de la compétitivité puisque ce seront des voitures qui seront moins chères et qui seront donc des concurrents redoutables pour les constructeurs européens.
Cet axe pourrait donc limiter la concurrence chinoise, mais le risque d'après lui c'est de voir la Chine répliquer, adopter à son tour des mesures pour limiter les ventes de voitures européennes en Chine.
Et justement, Pékin dénonce un comportement purement protectionniste et promet de se défendre. Il est 6h36, 16 médailles et 4 titres. On peut dire que la moisson a été bonne pour la France au championnat d'Europe d'athlétisme. C'est la 3e meilleure performance des Bleus sur le continent. Et c'est de bon augure juste avant les Jeux, Aurélien Tirsin.
Les Bleus arriveront au Stade de France rassurés avec de nouvelles têtes d'affiche comme Gabriel Tual en or sur 800 mètres et surtout Sirena Samba Mayela qui a éclaboussé le 100 mètres haies de sa classe. Plus que les médailles, ce sont les chronos de niveau mondial de ces athlètes qui laissent espérer des podiums olympiques cet été, sans oublier bien sûr le décathlonien Kevin Mayer qui a enfin validé son billet pour Paris. Le niveau mondial avec les Américains et les Africains est nettement supérieur au championnat d'Europe, mais après 5 ans de disette pour les Français, un seul titre international, c'est 16 médailles européennes permettent de sortir la tête de l'eau au meilleur moment. Et après les dernières compétitions européennes records, la France avait confirmé 3 médailles à Londres 2012 et 6 médailles aux Jeux Olympiques de Rio 2016.
Et c'est aujourd'hui que démarre la campagne pour devenir porte-drapeau aux Jeux Olympiques. Les comités olympiques et paralympiques français présentent leurs candidats en début d'après-midi.
Et puis le quintet, c'est sur l'hippodrome de Paris-Longchamp.
Rendez-vous à 20h15 et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Leur favori aujourd'hui, c'est le numéro 16, Cheek to Cheek, l'Outsider. C'est le 15, le bugiste. La course du quintet à suivre en direct sur RMC Découverte.
C'était le journal d'Élise Zanjean. On vous retrouve dans une heure.
À tout à l'heure.
Pour le journal de 7h30, à tout à l'heure.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
La dissolution devait, je cite, clarifier les choses. Enfin, pour l'instant, c'est plutôt l'inverse. Depuis dimanche, règlement de compte, exclusion, trahison. Est-ce que c'est digne d'une campagne aussi importante dans un moment aussi crucial? Est-ce que ça peut influencer votre vote ou votre participation aux législatives? Et puis, à gauche, on a Jean-Luc Mélenchon qui revient finalement par la petite porte. Il n'exclut pas d'être candidat au poste de Premier ministre. Vous êtes électeur de gauche, de droite, du centre ou alors sans parti. Venez donc témoigner au 32-16, nous dire comment vous réagissez à ce spectacle politique. On vous attend avec l'équipe d'Apolline Matin. À tout de suite.
RMC Police Justice.
Et on retrouve Guillaume Biel, le chef du service Police Justice pour l'histoire du jour. Bonjour Guillaume Biel.
Bonjour Apolline, bonjour à tous.
Ce matin, vous nous racontez l'intervention spontanée d'un Marseillais pour aider deux policières municipales à maîtriser un homme violent.
Oui, c'est un coup de main pour le moins inattendu dont ont bénéficié ces deux agents. Le tout filmé par un témoin. Vidéo déjà visionnée plus de 2 millions de fois en l'espace de 3 jours. La scène se déroule dimanche après-midi à Marseille, boulevard de la Libération. Près d'un bureau de vote, un homme très agité, violent, est en train de s'en prendre au mobilier urbain et aux voitures en stationnement. Deux policières municipales tente de le raisonner à distance. L'une a sorti son taser, l'autre son flashball. C'est là qu'une voiture s'approche au pas et que le passager avant demande à l'une d'elles « Madame, je vous l'attrape ?» Alors sa collègue a beau indiquer que non, ce n'est pas la peine, le jeune homme descend tout de même de voiture, s'approche doucement du suspect, se place derrière lui et l'amène tranquillement sur le trottoir en lui tenant les bras et en le maintenant alors que l'une des policières municipales a le plus grand mal à le menotter. Alors c'est vrai que l'intervention spontanée du jeune homme a bien aidé à stopper le récalcitrant, qui est un malade psychiatrique qui a été hospitalisé, mais globalement, ce genre d'initiative est plutôt déconseillé, surtout si les forces de l'ordre sont déjà là. Les deux policières municipales justement expérimentées, mais un peu moqués sur Internet, sont défendus par la mairie de Marseille qui souligne leur attitude de dissuasion sans usage de violence, je cite, pour éviter tout dommage collatéral.
L'histoire du jour, signée par Guillaume Biel, chef du service police-justice d'RMC.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h42, très bon réveil à tous.
À vous de nous dire.
On a encore passé une journée invraisemblable hier. Vous avez suivi ça tous, Manu, Nicolas, Amélie, Charles, vous avez réussi à dormir un peu ou pas? Parce qu'en fait, c'est difficile de louper des... On a l'impression qu'on va louper des épisodes.
Oui, puis c'est... Après, il n'y a pas de grande surprise. On ne va pas se mentir non plus. Moi, je...
Il y a des rebondissements.
Il y a des rebondissements, mais pas de surprise.
Je m'attendais pas à passer l'après-midi à scruter une porte bleue... devant le siège des Républicains, devant est-ce qu'ils ont la clé, pas la clé, comment ça va se passer?
Elle est où la clé?
Quand même, Nicolas.
Avant, je connais quelqu'un qui s'est mis en arrêt maladie pour ne rater aucun épisode.
Non, c'est pas vrai.
Un ami proche.
Mais je croyais qu'il n'y avait pas d'arrêt maladie de plaisance.
C'est interdit.
C'est pas bien, je lui ai dit que c'était pas bien.
C'est exceptionnel de faire ça.
Mais pour pas louper.
Ah non, pour rien rater, parce que sinon, dès qu'on.
Oui, dès qu'on décroche. C'est vrai qu'Emmanuel Macron qui fait une conférence de presse à 11h, je me suis dit, qui peut la regarder? En fait, c'est vrai quand même. Sauf, il faut se mettre en arrêt maladie. Manu.
Oui, objectivement, c'est quand même, même dans beaucoup de séries télé qui tournent autour de la politique, on a vu des choses hier que certains scénaristes n'auraient même jamais osé imaginer. Oui.
On dirait c'est pas crédible. Il y avait une série comme ça.
Et le patron d'un grand parti qui se retranche dans ses locaux, qui les rend. Non, bah, je veux dire, c'est quand même un truc inimaginable dans une démocratie sérieuse.
Alors on en rit, mais enfin, faut-il en rire ou en pleurer? Parce que la réalité, c'est que tout ça, dans un contexte aussi crucial, c'est assez affligeant. Je vous rappelle donc quelques-uns des épisodes, et encore hier, Éric Ciotti qui s'enferme en effet au siège des Républicains avant d'être en réalité exclu de ce parti, puis délogé du siège. Trahison aussi chez Reconquête, Marion Maréchal qui finit par choisir Marine Le Pen et Jordan Bardella, qui se retrouve finalement exclu donc par Éric Zemmour, qui dit qu'il a été trahi, et tout ça en direct devant les caméras. La journée s'est terminée enfin avec le retour de Jean-Luc Mélenchon qui, hier soir, a dit qu'il n'excluait pas de se présenter à la tête de cette nouvelle union de la gauche pour pouvoir être Premier ministre. La question que je me pose, c'est est-ce que tout ce cirque a un impact sur notre vote? Est-ce qu'au fond, ces réactions qui sont censées tenter de convaincre les électeurs réussissent à les faire bouger? Est-ce que ça clarifie les choses? C'était quand même ça, censé être l'objectif de cette dissolution, ou est-ce que c'est un spectacle que vous jugez indigne? Vous nous appelez au 3216 pour réagir. Il y a déjà Sébastien et Anthony. Bonjour Sébastien.
Bonjour Apolline.
Sébastien, vous êtes routier, breton, vous habitez à Guerre, dans le Morbihan, c'est bien ça?
C'est ça.
Peut-être sur les routes, cela dit, à cette heure-ci, Sébastien.
Exactement, oui, sur les routes de France.
Sébastien, vous avez 35 ans, vous votez pour qui d'abord?
Rassemblement National.
Rassemblement National, et vous l'avez depuis longtemps ou...
Ouais, depuis ma majorité en fait.
Depuis que vous avez l'âge de 18 ans, vous avez toujours voté RN?
C'est ça.
Quand vous entendez quand même ces inquiétudes, quand vous entendez Emmanuel Macron qui dit ce sera le chaos, ça ne vous décourage pas de voter RN?
Non, du tout. De toute façon, c'est de la manipulation aussi, quelque part. Ils vont tout faire pour récupérer les voix, que ce soit aussi bien la gauche que Emmanuel Macron, que tous ces partis-là. Quoi.
C'est la première fois que la Bretagne vote RN. Vous êtes breton. Jusqu'à présent, la Bretagne était une sorte de grand village gaulois qui tentait de résister. Aujourd'hui, la Bretagne, comme tous les autres départements de France quasiment, enfin à l'exception de quelques départements en région parisienne, a placé Jordan Bardella en tête des votes de dimanche. Vous en parlez autour de vous, Sébastien?
Oui, moi surtout là, je suis sur la route toute la semaine, donc oui, avec les routiers, on en parle. C'est beaucoup Rassemblement National dans le monde de la route quand on en parle le soir dans les restos, parce que je pense qu'il y a un ras-le-bol de tout le monde où on essaye de s'en sortir, qu'on fait des heures à gogo et qu'on se fait ponctionner à bloc dès qu'on veut faire quelque chose.
Et est-ce que vous avez l'impression que les choses sont moins tabous? C'est-à-dire que moi, j'ai quand même, je me dis, quand tout d'un coup une région comme ça vote à ce point, et que tous les départements d'ailleurs, ça veut dire qu'il n'y a plus de tabous. Ça veut dire que ceux qui jusqu'à présent pouvaient ne pas oser dire qu'ils votaient RN, et j'ai l'impression que depuis dimanche, c'est comme s'il y avait une sorte de verrou qui avait sauté. Est-ce que vous le constatez ça, Sébastien?
Alors il y a un verrou qui a sauté, mais il y a aussi La Bretagne est une terre agricole. Et ce qui s'est passé avec les agriculteurs il y a quelques temps là, au début de campagne, effectivement, on leur a proposé des choses et arrivé aujourd'hui, il y a toujours rien.
Et donc vous avez l'impression que c'est aussi là-dessus. Bah tiens Sébastien, on va en débattre aussi avec Anthony. Bonjour Anthony.
Oui, bonjour
Comment ça va, Anthony? Vous avez 26 ans, vous êtes carrossier à Bordeaux. Anthony, vous avez voté pour qui dimanche?
Alors, dimanche, pour les européennes, j'ai voté Jordan Bardella.
D'accord. Vous aviez déjà... C'est comme Sébastien, vous avez souvent voté RN ou...
Non, pas forcément, mais là, j'ai trouvé que c'était vraiment important pour les européennes de D'accord. voter Jordan Bardella.
D'accord.
Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, pour les législatives, pour moi, ce sera un vote blanc.
D'accord. D'accord. Et pourquoi cette différence de vote, alors?
Mais parce que j'ai l'impression que c'est une télé-réalité, ce qui se passe là. C'est soit une télé-réalité, soit c'est Netflix. Je ne comprends pas. Un coup, la gauche, elle s'unit, alors que les deux, que ce soit LFI et que ce soit M. Glucksmann, ils se sont crachés sur la gueule à maintes reprises. Et après, d'un côté, Marion Maréchal, qui est du côté de Zemmour, se rallie et sort de là. Et maintenant, le LR, que ce soit Monsieur Ciotti, n'est pas en coordination avec les autres. Enfin, c'est une télé-réalité, là. Les Français.
Et globalement, ça vous dégoûte de la politique? C'est-à-dire que globalement, vous vous dites, bah, du coup, je vais voter blanc?
Ah, mais complètement. Moi, je pars du principe qu'à l'heure d'aujourd'hui, notre pays, que ce soit la France, on peut mettre qui on veut, et surtout même si monsieur Bardella passe ou monsieur Mélenchon, parce que faut pas se nier, hein, le front populaire là, ils vont mettre monsieur Mélenchon premier ministre, il faut pas se leurrer. Qu'est-ce qu'ils vont faire jusqu'à 2027? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rien faire, on le sait très bien depuis des années. C'est pas en 3 ans qu'on va gouverner un pays. On l'a bien vu, ils vont rien changer du tout. On l'a bien vu à l'époque de Chirac avec monsieur Jospin. Ils ont pas fait grand-chose. Qu'est-ce qu'il a fait monsieur Jospin? Il a rien fait.
Et donc au fond, ce spectacle depuis dimanche vous éloigne davantage de la politique, mais c'est intéressant parce que Anthony, pour autant, vous aviez eu ce vote en quelque sorte de colère quand on vous entend dimanche, mais vous ne renouvellerez pas votre vote RN pour les législatives. Sébastien et Anthony, merci à tous les deux. Sébastien, je vous avais jamais entendu, si?
Non, jamais.
Non? Eh ben, écoutez, soyez le bienvenu au 32-16, Sébastien, qui est donc sur les routes routiers dans le Morbihan. Vous avez voté RN et vous nous avez appelé ce matin, mais si vous avez voté à gauche, j'aimerais bien vous entendre aussi. Je trouve que ce matin, on a envie de comprendre aussi si vous avez voté, vous avez voté Glucksmann, vous faites partie de ces 13% qui ont voté Glucksmann. Vous entendez que finalement, c'est probablement Jean-Luc Mélenchon qui va sortir de cette coalition de gauche comme candidat pour le parti de Premier ministre. Comment vous réagissez? On attend vos réactions au 32-16. Il est 6h50.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, racontez-nous, Nicolas Poincaré.
Je vous raconte l'histoire d'une conséquence inattendue de la dissolution. Figurez-vous, c'était sur les Jeux Olympiques.
Et puis, on n'avait pas osé vous en parler, Charles.
Eh bien, je vous emmène dans l'entreprise où les salariés peuvent choisir leur patron.
Oh bah c'est pas mal, ça.
Mais oui, c'est pas
Allez,
mal.
Allez, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Et il est 6h53, c'est l'heure de Nicolas Poincaré.
Racontez-nous.
Nicolas, chaque matin, vous nous racontez une histoire à votre façon. Et ce matin, c'est l'histoire d'une conséquence inattendue de la dissolution.
Oui, la dissolution surprise de l'Assemblée qui risque de perturber le calendrier des Jeux Olympiques en France. Mais pas des Jeux de cet été à Paris. Non, les suivants, les Jeux Olympiques d'hiver, qui doivent avoir lieu, ça vous a peut-être échappé, en 2030 dans les Alpes. La candidature des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur a été retenue en novembre dernier. La France n'est pas encore officiellement le pays organisateur. Nous sommes pays très senti, mais la France est surtout le seul en lice après l'élimination de la Suède et de la Suisse. Dans 6 ans, donc, Nice devrait être la ville hôte. Et les épreuves de ski, par exemple, se dérouleront dans les Alpes, en particulier à Courchevel et à Val d'Isère.
Mais alors pourquoi la dissolution empêcherait ou nuirait à la candidature française?
Parce qu'il restait une étape avant l'officialisation de la désignation. Les autorités françaises doivent apporter leur garantie financière avant le 24 juillet, ce 24 juillet. Or, les autorités françaises, en ce moment, ont un peu la tête ailleurs.
C'est sûr, oui. Et qui sait, les documents, là, ils vont pas y arriver.
Qui sait qui sera Premier ministre, ministre des Finances ou ministre des Sports le 24 juillet prochain?
Hein, qui sait qui?
Personne. Et c'est donc cette incertitude qui fait peser un risque. Si l'État français et les deux régions concernées ne sont pas en mesure d'apporter les garanties financières sérieuses à temps, alors la décision sera reportée d'un an. La France garderait ses chances, mais la candidature de Nice, dans un an, ne serait plus forcément la seule en lice. Le président du Comité international olympique, l'Allemand Thomas Bach, a expliqué tout ça hier. En revanche, il ne s'est pas du tout montré inquiet pour les Jeux de cet été, les Jeux à Paris. Il estime, cet Allemand, que la France a l'habitude d'organiser des élections et que ça ne devrait pas perturber.
Elle a l'habitude d'organiser des élections ou elle a l'habitude du bordel?
Oui, ça,
c'est la France a l'habitude de ce genre de situation chaotique. 6h54, Charles.
RMC, Apolline Matin.
On n'a pas osé vous en parler.
On n'a pas osé vous en parler, mais Charles nous emmène dans l'entreprise où les salariés choisissent leur chef.
Oui, le manque de main-d'œuvre qui en vient à inverser les normes. Ça se passe au Japon, où le patron d'un grand cabinet d'architectes a trouvé une nouvelle méthode pour lutter contre le turnover. Plus de 10% de ses salariés quittaient l'entreprise chaque année, attirés par d'autres boîtes, une concurrence féroce pour attirer les talents. Il a donc fait une promesse à ses salariés. Si vous restez dans mon entreprise, vous pourrez choisir votre manager. Une fois par an, chaque salarié répond à un questionnaire sur son N+1, sur son chef. Ensuite, chaque manager est évalué par tous les salariés sur ses qualités professionnelles, humaines, sa pédagogie, et ses rapports d'évaluation sont ensuite rendus publics dans l'entreprise. Chaque salarié peut ensuite choisir librement son chef pour l'année suivante. Chaque 1er janvier, le salarié regarde les bulletins de notes de tous les chefs et il dit cette année, j'aimerais bosser pour un tel ou un tel.
Ça m'inspire beaucoup, Amélie.
Oui, ça m'inspire, mais il y a forcément des chefs qui se retrouvent avec zéro subordonné.
C'est comme les coachs dans The Voice.
Oui.
Ça marche pas, en attendant, ça marche.
Dans cette boîte, le taux de départ de rotation là, est passé de 11 à 1%. Les salariés adhèrent à fond. Ça inspire d'autres boîtes japonaises, notamment une agence de marketing qui propose même aux candidats à l'embauche de choisir l'interlocuteur avec lequel ils passeront leur entretien d'embauche. Il y a un portfolio, des photos, etc., des différents chefs. Et on choisit le recruteur.
J'aime bien parce qu'elle a réfléchi puis elle a dit « c'est pas mal ».
Non mais c'est pas mal, ça permet d'adapter aussi en termes de personnalité.
Et puis peut-être que ceux qui sont pas managés, qui sont pas choisis, vont s'améliorer du coup.
Oui mais moi j'ai choisi, moi je vote Apolline pour la
prochaine. Oh non, faillot, c'est un
faillot hors catégorie, Charles.
Et pourtant on envoie en ce moment des faillots.
Et pourtant des faillots depuis dimanche, je vais te dire.
Ça sent l'investiture.
Il est 6h56. Excellent réveil à tous. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. À la une du journal de 7h, vous l'entendrez, Jean-Luc Mélenchon qui sort du silence et qui ne dit pas non à Matignon. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.